grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Dans ses fameuses mythologies, Roland Barthes écrivait ceci. L'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques, une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie un objet parfaitement magique. La voiture est-elle encore un objet magique en 2019? Symbole d'aliénation, de pollution, d'hyperconsommation pour les uns, un emblème de liberté, d'autonomie et de prestige social pour les autres. Omniprésente dans notre vie quotidienne avec plus de 32 millions de voitures dans notre pays, considérée comme un fait social majeur, l'automobile est devenue une source de controverses et de débats passionnés. Nous verrons que la bagnole raconte à merveille nos sociétés paradoxales. Avec nous ce matin, le sociologue Johan de Mauly, le psychologue Jean-Pascal Assailly et le journaliste Grégory Galifi. Quel rapport entretenez-vous avec la voiture? De l'attraction, de la répulsion ou les deux? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. On vous retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à la une cette semaine?
Le référendum. On se demandera s'il faut être pour ou contre.
A tout à l'heure Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour à nos invités, bonjour Johan de Mauly.
Oui, bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Versailles 51 en Yvelines. Vous êtes le co-auteur de Sociologie de l'automobile à la découverte dans la collection Repères. Bonjour Jean-Pascal Assailly.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, chercheur à l'Institut des sciences et technologies des transports et vous avez publié Homo Automobilis ou l'humanité routière. Avec nous également au téléphone, Grégory Galifi. Bonjour.
Bonjour Ali,
vous
bonjour
à tous. L'excellent présentateur de Direct 8, vous conduisez les plus belles autos du monde dans des paysages de rêve. Je ne pourrai jamais vous piquer votre boulot parce que j'ai pas le permis, Grégory.
Voilà. C'est une bonne chose. Bah écoutez, effectivement, c'est un métier qui crée beaucoup d'envie, on me le dit très souvent, mais je sais que j'ai beaucoup de chance.
Johan de Mauly, pourquoi la voiture est-elle un fait social?
Alors je crois qu'il y a au moins trois raisons. D'abord, il y a 80% des ménages en France qui ont une voiture. Donc c'est une réalité pour la majeure partie de nos concitoyens. Ensuite, ça consiste en un budget qui est totalement important pour la plupart de nos concitoyens. C'est environ 12% en moyenne, hein, du budget des ménages. Et puis enfin, comme on le voit aujourd'hui, la voiture est partout dans les discours. Vous allez dans un café, on parle de voiture. Vous allez à la radio, on parle de voiture aussi.
Jean-Pascal Assailly, pourquoi c'est un fait social majeur, la voiture?
Oui, bon, il y a bien sûr, d'ailleurs, ce côté café du commerce où tout le monde, je veux dire, a quelque chose à dire sur la voiture et la sécurité routière, quelque part peut être aussi un obstacle, hein, finalement, au progrès qu'on peut faire. Mais elle est un fait surtout social total, comme disait Marcel Mauss, dans le sens où elle révèle vraiment ce qu'est une culture à un moment donné. C'est-à-dire que ce soit quand on se compare, nous, par rapport aux Anglais, par rapport aux Italiens, on voit bien tout de suite comment le même objet va être utilisé différemment. Et que bah, ça révèle tout un tas de représentations, de valeurs, et que l'imaginaire de l'automobile est très différent selon les pays. Et évidemment, pour un psychologue, ce qui nous frappe le plus, c'est l'ambivalence. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a été, notre rapport à la voiture a été, idéalisé pour tous nos pères et nos grands-pères, parce que c'était à la fois le symbole de la liberté, hein, l'évasion, la National 7 de Trenet, voilà. C'était le côté, la seconde maison, on était bien dedans, hein, jusqu'à y passer 3 heures par jour pour certains, mais alors donc on a rendu ça de plus en plus confortable, une espèce de bulle d'utérus. Et puis pour certains, c'était aussi un objet de posture d'identification. Hein, voilà, un signe, ça peut être un signe extérieur de richesse, par exemple. Bon, même si c'est des choses qui sont en train de. Alors voilà, mais tout ça est en train un peu de céder. Voilà, céder parce qu'en face, il y a eu la question du développement durable. Il y a la question de la dépendance à la voiture, il y a la question bien sûr de l'insécurité routière. Bon, et je crois qu'un phénomène fondamental, si vous voulez, dans les attitudes différentes aujourd'hui d'un jeune Français comme vous,
par
vous
rapport gentil.
À votre grand-père ou votre père, bah ça a été un peu l'exode rural. C'est-à-dire qu'effectivement, même si on est en province, quand on est jeune, bien souvent, on vient à la ville pour faire ensuite ses études, et que là, la voiture est plutôt vue comme un inconvénient qu'autre chose.
Grégory Galifi, pourquoi est-ce que la voiture, c'est pour vous un fait social majeur?
Comme le disait Jean-Pascal Assailly, effectivement, moi j'aime beaucoup cette image d'Épinal de la National 7, des premières vacances d'après-guerre avec les quatre chevaux, etc. Mais c'est surtout effectivement un formidable outil de liberté. Et ça a été un outil, et ça l'est encore, un outil d'émancipation de l'homme. Ça permet aux hommes de se déplacer vite. Et donc ça, c'est formidable. On a vraiment encore beaucoup de chance d'avoir une automobile qui progresse énormément et qui est de plus en plus respectueuse de l'environnement.
Yoann de Molly, on voit bien que la voiture est un fait social majeur. Bah, quand on voit que l'élément déclencheur de la crise des Gilets jaunes est lié à la voiture.
Oui, alors je crois qu'il y a une forme de paradoxe qui atteint son paroxysme aujourd'hui. C'est qu'en fait, la voiture n'a jamais été aussi importante pour nos concitoyens. Aujourd'hui, il y a 70% des actifs, des salariés français, qui prennent la voiture pour aller travailler. Donc c'est vraiment très contraignant. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de la voiture comme cathédrale. Moi, j'ai plus envie de dire que la voiture, désolé d'être prosaïque, c'est comme un frigidaire. Tout le monde en a besoin. Donc il y a ce paradoxe où tout le monde en a besoin, et en même temps, sa remise en cause n'a jamais été aussi forte hein, dans les discours.
Jean-Pascal Assailly.
Oui, bah c'est effectivement sur le temps passé, c'est quelque chose effectivement, on voit bien que ça commence un petit peu à céder parce que effectivement pendant très longtemps, la voiture était le moyen le plus rapide d'aller d'un endroit à un autre. Bon, puis en plus on pouvait choisir sa trajectoire, il y a 100 façons différentes d'aller de Paris à Lyon. Bon. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec le phénomène des embouteillages, c'est de moins en moins vrai. La vitesse moyenne d'une voiture en région parisienne, c'est très faible hein, quand vous calculez le temps qu'elle met. Bon, et à la limite, elle est plus tellement compétitive par rapport au transport en commun. Donc, sur la question du rapport au temps qui est un peu central dans la vie des gens aujourd'hui, elle commence à perdre un de ses atouts.
Et Yoann de Molly, vous le disiez, hein, on assiste à un rejet de la voiture, d'une partie du personnel politique et de nos concitoyens, alors que nos sociétés modernes se sont organisées autour de l'automobile.
Oui, assez clairement. En fait, il y a des différences très fortes hein, dans le rapport à la voiture selon le type d'espace. Prenons trois communes. Montreuil, c'est 52% de taux de motorisation. C'est
en région parisienne.
En région parisienne. Montreuil-sur-Seine, une ville plutôt populaire. Le 12e arrondissement plus riche, c'est moins de voitures, 40%. Et puis, quand on prend une ville comme Nofle-le-Château dans les Yvelines, 95% de taux de motorisation. Donc, c'est dire que finalement, le rapport à la voiture, il est extrêmement hétérogène aussi selon le type d'espace.
Et vous écrivez, Yoann de Molly, que depuis les années 2000, la voiture est frappée d'un véritable opprobre. Je vous cite, on y organise des journées sans voiture, on multiplie les zones piétonnes, on installe des systèmes de péage qui restreignent l'accès des automobiles au cœur des villes, on multiplie les initiatives visant à décourager la possession d'une voiture, on interdit la circulation des véhicules les plus polluants.
Oui, assez clairement. Alors, en fait, il faut penser l'automobile comme un vrai objet social qui différencie des styles de vie. Aimer Johnny Hallyday, c'est quelque chose qui dégoûte certains et qui passionne d'autres. Et la voiture, c'est la même chose. Et il y a des habitants, en particulier des hypercentres, Sylvie Tissot les a étudiés par exemple à Boston, mais le phénomène est là en France, qui font du style de vie sans voiture le bon style de vie.
Jean-Pascal Assailly.
Oui, enfin, alors je voudrais souligner, et d'habitude c'est plutôt les sociologues qui insistent là-dessus, c'est qu'il y a une vraie fracture sociale. Ce qui a été au cœur du mouvement des Gilets jaunes vient de ça. C'est qu'en fait, effectivement, on a tout fait pour décourager au maximum la voiture dans les centres-villes, où habitent maintenant les classes les plus aisées vu le prix de l'immobilier. Et par contre, effectivement, en expulsant les classes populaires et les classes moyennes dans les de plus en plus de lointaines banlieues, là au contraire, on va tout faire pour favoriser l'usage de la voiture, puisqu'on va créer des parkings, on fait mourir les petits commerces de centre-ville pour que maintenant tout le monde aille dans les grandes surfaces qui sont toujours périphériques. On met les cinémas, même les magasins de musique, enfin voilà. Donc effectivement, on a rendu une population captive de la voiture. Et là, c'est sûr qu'en période de crise économique, on allait dans le mur.
Grégory Galifi, vous la sentez, vous, cette défiance contre la voiture ?
Il y a surtout une opposition, je trouve, aujourd'hui, entre les gens qui habitent à la campagne et ceux qui habitent dans les villes. Après, c'est aussi une résultante des politiques. C'est qu'on a, vraiment écœuré les gens qui habitent dans les centres-villes à rouler en voiture. On réduit les voies de circulation. Parfois, on crée même des embouteillages à 2h du matin à Paris ou dans certaines grandes villes, dans certaines grandes agglomérations. Donc, de fait, les gens réagissent par rapport à ça. Et aussi, si vous voulez, il y a aussi nous, les médias, on contribue à ça. C'est que on martèle sans arrêt que l'automobile est polluante, on martèle sans arrêt que ça crée des morts. Bon, bien évidemment, il y aura toujours des morts sur les routes, malheureusement. Mais à titre de comparaison, c'est moins de 4 000 morts par an sur les routes de France, et vous avez plus de 20 000 morts sur les accidents du quotidien. Donc, il y a quand même une très grosse opposition. Elle en parle beaucoup moins. Donc, si vous voulez, il y a aussi cette résultante de la politique, et malheureusement, on souffre de cela aujourd'hui. et l'automobile en souffre énormément.
Jean-Pascal Assailly.
Oui, bon, de toute façon, ceci dit, en ville, je crois qu'on a plus tellement le choix. On voit bien aujourd'hui comment on en est effectivement à des niveaux de pollution qui on ne peut plus ne pas agir. Simplement, effectivement, oui, c'est vrai, on cite souvent ce phénomène-là que la route actuellement, on dira, ça n'est plus que 3400 tués, alors qu'il y a 11 000 suicides et 20 000 accidents domestiques. Je dirais quand même qu'effectivement, n'oublions pas que les tués sur la route, il y a beaucoup de jeunes et que par définition, un décès entre 18 et 25 ans coûte extrêmement cher à la société, presque de 2 ou 3 millions par personne. Et il y en a des milliers chaque année. Donc c'est quand même toujours un gros enjeu économique, la sécurité routière.
Hein. Yuan de Molly.
Oui, et il y a aussi des enjeux sociaux très forts, hein, qu'on connaît tous. Vous savez que la majeure partie des tués sur la route sont en fait des jeunes ouvriers. Hein, on a 22% d'ouvriers parmi les tués de la route, on a 22% d'ouvriers, alors qu'ils constituent 14% de la population générale. Donc il y a aussi, bien sûr, des inégalités sociales devant la mort routière.
Grégory Galifi, vous le disiez, hein, comme beaucoup d'automobilistes, vous êtes attaché au sentiment de liberté qu'apporte la conduite automobile. Est-ce que toutes ces mesures restrictives, cette défiance contre l'automobile, ça a un impact sur votre sentiment de liberté?
Ça en a un, parce que d'une part, aujourd'hui, si vous voulez, c'est que on subit de plus en plus d'embouteillages. Moi, j'ai vraiment des frais de sentiment en tant qu'automobiliste de subir, parce que on se dit, mais on pourrait fluidifier certains centres-villes, etc. Parce que les gens, comme vous le disiez tout à l'heure, l'un de vos invités, c'est que l'immobilier coûte extrêmement cher dans les centres urbains, notamment à Paris. Donc, on est obligé de s'exiler en lointaine banlieue pour pouvoir avoir un appartement ou une maison correct, et donc de fait l'automobile, on est obligé de la consommer, mais sauf que bien souvent on est quand même dans un pic extrêmement centralisé et notre travail se trouve sur Paris, donc on subit énormément ces retards, etc. Et si vous voulez, je pense qu'on pourrait fluidifier tout ça et rendre la vie des gens plus heureuse. Je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Pascal Assailly sur le fait. J'étais un petit peu choqué quand il a parlé des morts sur la route, et notamment des jeunes, que ça avait un impact économique. Personnellement, un mort, c'est un mort, et je pense que c'est un drame, quel qu'il soit, que ce soit sur la route, qu'il soit jeune, ou que ce soit dans un accident du quotidien, qu'il y ait une personne plus âgée. Donc je pense qu'il faut aussi remettre les choses, comme on dit souvent, vous savez, l'église au centre du village, et il faudrait peut-être voir aussi en fonction des priorités et du quotidien des gens.
Précision de Jean-Pascal Assailly.
Oui, bien sûr. Voilà, c'est toujours pareil. C'est une question un peu de savoir quelle est l'approche, hein, comment dire, scientifique qu'on adopte à un moment donné. Je suis tout à fait d'accord. Philosophiquement, je suis tout à fait d'accord. La mort de quelqu'un de 8 ans ou de 80 ans, c'est exactement la même chose. Je ne fais aucune différence. Je faisais simplement référence à une autre discipline qu'on appelle l'économétrie de la santé. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, dont le travail à faire, c'est de calculer le coût du blessé grave. Parce que ça aussi, c'est très important. On en parle pas assez. Pour un tué, il y a 10 blessés graves sur la route. Le coût du handicap aussi est énorme. Et qui calcule le coût du tué. Quand vous calculez un coût du tué, vous rentrez dans une équation beaucoup de choses, c'est-à-dire l'argent qu'il a fallu mettre pour élever cette personne et le temps, et ensuite tout ce que son travail aurait pu apporter à la société dans sa vie active de 18 ans jusqu'à 65 ans. Donc forcément, pourquoi on fait ça ? C'est tout simplement parce que malheureusement on vit dans une société libérale où les politiques, les élus, veulent souvent entendre que des arguments économiques et d'argent. Alors, de temps en temps, nous les psychologues, on utilise aussi ça pour dire voilà pourquoi c'est 10 milliards. Parce qu'effectivement, un tué à 18 ans, malheureusement, coûte beaucoup plus cher à la société qu'un tué à 80.
Yuan de Molly.
Oui, alors moi je voulais peut-être revenir sur le phénomène de périurbanisation en réalité, où ce qui se passe, c'est que certains ménages, vu les prix de l'immobilier, sont obligés de s'éloigner. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que quand vous faites un prêt bancaire, hein, immobilier, on vous demande jamais combien vous coûte votre budget automobile. Pourtant, c'est un budget extrêmement important, et j'ai pas mal de connaissances qui travaillent dans ces commissions de surendettement, et on peut pas savoir le nombre de personnes qui sont dans ces commissions de surendettement suite à un problème mécanique sur une voiture, à une grosse panne, au rachat d'une voiture qui est de mauvaise qualité.
Allez, dites-nous quel rapport vous entretenez avec la bagnole, attraction, répulsion, indifférence. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook De Grand Bien Vous Fasse. Alexia Lacour et Laura Laplot m'ont aidé à préparer cette émission avec le concours de Nicolas Beauve, et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
saison des pluies est passée. Bambou ne pleure plus, elle s'est vite consolée. Tous les silences de bambou hurlent dans ma tête et me rendent fou.
Chamfort interprété Bambou.
Grand bien vous fasse.
Il ne me manquait qu'une chose pour être tout à fait heureux. Une petite voiture. Une auto, quoi.
Sur France Inter.
10h25 et on s'intéresse ce matin à la voiture qui raconte notre société avec le sociologue Johan de Molly, le psychologue Jean-Pascal Assailly, avec le journaliste de C8 et non pas de Direct 8 comme je l'ai dit tout à l'heure, Grégory Galifi. Alors on a un message sur notre page Facebook de Cécile qui nous dit « Je suis commercial, je fais en moyenne 60 000 km par an, j'aime autant la voiture que je la déteste, je l'aime car elle me donne un sentiment de liberté, je traverse beaucoup de régions, de paysages, ma voiture c'est mon espace, rien qu'à moi, et je la déteste. » Quand je suis dans les bouchons, j'habite Paris, et que je culpabilise lors des pics de pollution, le week-end et pendant mes vacances, j'utilise le moins possible ma voiture, vivement les voitures autonomes et propres. Il est parfait ce mail de Cécile, Johan de Molly, Jean-Pascal Assailly. Il dit tout le paradoxe autour de la voiture, Johan de Molly.
Ah oui, fortement, il y a cette ambivalence entre la voiture comme une pure liberté, et puis cette voiture aussi comme contrainte, hein, outil de travail domestique.
Grégory Galifi.
Effectivement, après, effectivement, cette personne fait 60 000 km par an, ce qui est quand même très, très au-dessus de la moyenne nationale qui est en dessous de 10 000. Mais bien sûr, c'est cette ambivalence entre l'amour qu'on peut porter à l'objet de liberté et des fois la perte de temps qu'on peut aussi subir dans les embouteillages comme cette auditrice et automobiliste.
Ça vous fait rêver, vous, Grégory Galifi, les voitures autonomes comme le souhaite un jour Cécile dans sa vie.
J'aime beaucoup conduire. Après, j'ai une certaine défiance, comme beaucoup de Français, par rapport à la voiture autonome. Alors, je sais que techniquement, les ingénieurs travaillent très bien dans le secteur automobile. On a dit personnellement déjà ici, en tant que journaliste automobile, ce genre de véhicule. C'est bluffant d'efficacité. Mais moi, j'aime pas trop ce côté passif. J'aime bien rester maître de mon véhicule et conduire. Et rester vraiment en pleine possession de l'outil que j'utilise.
Alors, Johan de Molly, rappelez-nous quelle est la place de la voiture dans les déplacements quotidiens des Français. C'est le moyen de transport majoritaire des ménages français ?
Oui, assez clairement et de plus en plus. Dans les années 80, début des années 80, c'est la moitié des déplacements quotidiens qui sont faits en voiture. Dans les années 2000, au fin des années 2000, c'est deux tiers des déplacements qui sont faits en voiture, donc des déplacements de moins de 80 km, hein, la mobilité vraiment quotidienne. Donc la voiture, oui, occupe une place de plus en plus importante.
Le principal usage, c'est pour se rendre au travail, tout simplement.
C'est se rendre au travail, et quand on y ajoute tout ce qui est lié au travail domestique, accompagner ou chercher les enfants, faire les courses, les démarches administratives, on a finalement la majeure partie des déplacements faits en voiture. Ce qui veut dire que derrière cette image de liberté de la voiture, on a quand même un engin qui n'est plus lié tant à la civilisation de loisirs qu'à la civilisation du travail.
Et Fabienne nous dit par courriel, juste un petit mot pour donner ma réalité, sans véhicule personnel inscrit sur mon CV, eh ben, vous ne trouvez pas d'emploi. Est-ce que c'est une discrimination, Johan de Molly ?
Alors, s'il s'agit d'une discrimination, alors je laisse les juristes en discuter, mais ce qui est très clair...
C'est un handicap de ne pas posséder de voiture pour travailler.
Et à l'inverse, on le voit quand finalement, vous avez pas mal de personnes qui inscrivent le permis B sur leur CV, et aussi le fait qu'ils ont une voiture.
Et pour certains, la possession d'une voiture, bah, c'est une question de survie économique.
Ah oui. Alors c'est un passeport effectivement pour l'emploi, souvent pour l'emploi des moins qualifiés, mais ça peut amener à des effets un peu pervers. Parce que pour avoir un travail, il faut une voiture, et pour entretenir cette voiture, il faut un travail.
Jean-Pascal Assailly.
Voilà, on en est là, et peut-être pour sortir de ce cercle vicieux qui a quand même créé pas mal d'inconvénients, hein, que ce soit l'insécurité routière ou la pollution, on peut espérer quand même que dans les années à venir, le rapport à la voiture va changer pour les jeunes générations. D'une part, on voit bien le développement de tout ce qui va être covoiturage, autopartage, c'est-à-dire ça n'est plus la possession, ma voiture qui n'est qu'à moi. Bon, et on sent bien que chez les jeunes aujourd'hui, c'est plutôt un usage qu'une possession. Donc c'est comme un service de mobilité, voilà. Mais il y aura ce rapport moins exclusif, d'une part. On peut attendre aussi beaucoup de choses des voitures électriques sur le côté de la pollution, mais là, il faut des mesures politiques fortes, voilà. Et quant aux voitures autonomes, bien sûr, mais là, évidemment, les études que nous sommes en train de faire, si vous voulez, montrent bien que on ne sait pas du tout pour l'année prochaine, mais c'est plutôt à 20 ou 30 ans, parce que les problèmes de sécurité sont loin d'être résolus.
Julien Bisson, rédacteur en chef du 1.
Oui, c'était pour revenir sur cette idée de déplacement pour le travail. C'est vrai que cet outil de liberté est aussi, c'est là aussi où c'est omnivalent, un outil d'asservissement, c'est-à-dire que l'apparition de la voiture, de la civilisation de la voiture, a éloigné les gens de leur lieu de travail, de leur lieu de consommation, et que le temps qu'on est censé gagner en y allant en voiture, en réalité, est un temps qui est grignoté sur un temps qui auparavant n'existait pas, qui était le temps de déplacement vers le lieu de travail, vers le lieu où on allait faire ses courses, et ainsi de suite. On a étendu les distances, donc la voiture devient nécessaire pour raccourcir ces distances, mais en réalité, on n'a pas gagné de temps. Aujourd'hui, on ne paie pas moins de temps pour aller au travail qu'on le faisait il y a 50 ans.
Un courriel de Jacques qui nous dit « Comme toujours, on ne parle que de Paris. Il serait bon que vous franchissiez de temps en temps le périph' à la campagne. C'est voiture obligatoire. » Yuan de Molly.
Ah oui, assez clairement. Alors, c'est très clair. Hein. Alors, je parlais pas forcément de Paris, mais de Naufle-le-Château, qui est une petite commune para-urbaine de la région parisienne. On a 95% de ménages motorisés. Donc oui, effectivement, il y a certaines communes, la plupart des communes rurales, la voiture est une pure nécessité.
Est-ce qu'on assiste vraiment à un recul de la voiture en France? Est-ce que c'est une idée reçue, Yuan de Molly?
Alors moi, je suis pour l'instant très circonspect sur les signes statistiques d'une baisse de l'équipement automobile. Je vous le disais, en 30 ans, on a augmenté même le multi-équipement. Il y a de plus en plus de ménages qui ont au moins deux voitures. Par ailleurs, quand on regarde le taux d'étention du permis, chez les jeunes gens de 18 à 20 ans, il a extrêmement augmenté depuis 30 ans. Ces signes que l'on voit, par exemple l'apparition du covoiturage, je pense vraiment que c'est lié aussi à des contraintes matérielles très fortes. Si on fait du covoiturage, et attention, pas n'importe quel covoiturage, du covoiturage de longue distance, c'est parce que les autres moyens de transport de longue distance sont très très chers.
Quels sont les groupes sociaux qui ne possèdent pas de voiture dans notre pays ?
Alors les groupes sociaux qui possèdent pas de voiture, ce sont plutôt des groupes sociodémographiques. En fait, majoritairement, ce sont des femmes âgées qui seront veuves. Ce sont aussi des familles monoparentales, donc à la tête souvent desquelles des femmes. Et ce petit noyau que l'on pense comme les grands pourfendeurs de la voiture constitue une très faible minorité de ces ménages sans voiture.
Grégory Galifi, est-ce que vous compreniez, quand on a les moyens d'avoir une voiture, qu'on ne conduise pas qu'on ne passe pas le permis? Vous comprenez, c'est mon cas par exemple, j'aime beaucoup la bagnole d'un point de vue esthétique, j'adore ça, je regarde vos émissions d'ailleurs, mais je n'éprouve pas le besoin de conduire. Est-ce que vous le comprenez ça?
Moi je le comprends, Ali, parce que vous êtes parisien, vous habitez en proche périphérie.
Comme je suis toulousain de naissance, vous savez, j'ai longtemps vécu en Provence.
Oui, Toulouse est une grande ville aussi, donc je veux dire, il y a aussi cette opposition entre les grands centres urbains, où effectivement les jeunes ont tendance à passer de plus en plus tard leur permis de conduire, et la nécessité, quand vous habitez en province, de passer votre permis à la conduite accompagnée dès 16 ans, parce que sans voiture, point de salut. Donc ça dépend effectivement d'où on grandit. Moi j'ai grandi à Paris et j'ai passé aussi mon permis sur le tard. Et c'est quand même c'est paradoxal pour quelqu'un qui aujourd'hui en fait sa profession et qui est passionné par l'automobile, mais c'est tout à fait normal. Et effectivement, la consommation de l'automobile est en train de changer. On le voit tout à fait avec le covoiturage. On est plus dans une sorte de partage. Avant, c'était un outil social. C'était un objet social de réussite. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins, je pense. Par contre, ce que j'aimerais rappeler, c'est quand même l'automobile en France, ça reste 10% de la population active et c'est un vrai poids économique. Et je pense que nos politiques devraient s'en souvenir, comme le font notamment nos voisins allemands, avec une industrie allemande aussi qui est très performante et qui est beaucoup plus soutenue de l'autre côté du Rhin qu'en France.
Merci beaucoup Grégory Galifi d'avoir participé à cette émission. On pourra vous retrouver ce samedi à 11h sur C8, une émission consacrée à la restauration d'une vieille Porsche 911. Merci d'avoir participé à l'émission. Alors, Yoann de Molly, les usages de la voiture varient, hein, selon le statut social, le sexe ou l'âge.
Oui, assez clairement. Alors, pour reprendre, par exemple, selon le sexe, c'est assez clair que les femmes et les hommes ont des trajets qui sont tout à fait différenciés. Et ce qui est assez, assez inédit, c'est que la voiture, c'est un petit peu comme un appareil électroménager, c'est-à-dire que ça ne libère pas tant la femme que cela. Quand on prend l'ensemble des trajets domestiques, aujourd'hui, alors les trajets domestiques, hein, amener les enfants, les accompagner, aller faire les courses, sont majoritairement dévolus aux femmes conductrices, hein, assez clairement.
Jean-Pascal Assailly.
Oui, c'est d'ailleurs un énorme enjeu pour la sécurité routière, finalement. C'est qu'effectivement, le fait que 80% des tués sont des hommes, des fois les gens pensent que c'est parce que les hommes conduisent beaucoup plus que les femmes. Non, c'est les hommes font 12 000 km par an, les femmes 11 000. Bon, c'est surtout les types de trajets. C'est qu'effectivement, les femmes font beaucoup les trajets pour des raisons domestiques, courses, les enfants et le travail. Et donc, on est dans les environnements urbains, périurbains, donc où la vitesse est très concentrée. Donc,
et pour les hommes?
Et ben, les hommes font leurs kilomètres plus pour des raisons professionnelles. Et quand vous roulez pour des raisons professionnelles, ça vous éloigne et ça veut dire que vous allez faire de la départementale et de la nationale. Et je rappelle quand même qu'effectivement, c'est vrai que le milieu rural, on a dit, il y a cette dépendance à la voiture beaucoup plus forte, c'est une évidence. Et il y a aussi un enjeu énorme de sécurité routière. Je rappellerai que les trois quarts des tués, c'est en milieu rural. Et que donc, quand on prend des mesures de limitation de vitesse en milieu rural, c'est pas uniquement pour embêter les gens, c'est que c'est là que sont les tués. Donc, je veux dire, la question de la vitesse, évidemment, c'est ça qui fait que ça rend le milieu rural dangereux et c'est un double danger. Enfin, il y a une dépendance à la voiture plus forte et une insécurité plus forte. Mais la différence homme-femme, elle vient bien aussi de cette question effectivement des lieux, des localisations des trajets et pas tellement du kilométrage.
Yoann Desmoulis, est-ce qu'on peut dire que l'automobile est devenu un mode de vie pour certains automobilistes? Pour certains, conduire, c'est également conduire, entre guillemets, leur vie?
Ah oui, assez clairement. Prendre sa voiture, c'est pas simplement piloter un engin. Hein. C'est tout un style de vie qui est lié. D'ailleurs, c'est pas anodin que dans le mouvement social des Gilets jaunes, on occupe des ronds-points, on occupe des zones industrielles, parce que ce sont des lieux emblématiques de cette société de dépendance à l'automobile, où finalement, la moindre course, le moindre déplacement pour le travail est très contraignant et très vite distant.
Est-ce que la voiture reste encore un marqueur social puissant?
Alors, je crois vraiment que la voiture l'a été un marqueur social.
Puisque c'est encore un achat ostentatoire.
Ça peut l'être pour certains groupes dans l'espace social. Plus on a de capital économique relativement au capital culturel, plus on a d'argent par rapport à son niveau de diplôme, et plus on peut investir effectivement dans de grosses berlines allemandes. Hein. Quand on regarde qui les possède, ce sont les professions libérales, ce sont les cadres du privé. Alors que quand on va dans d'autres sous-espaces de l'espace social, du côté des fonctionnaires, des cadres du public par exemple, cet attachement à la voiture est beaucoup moins fort.
L'industrie automobile propose de plus en plus de voitures qui permettent de se singulariser grâce à une multiplicité absolument incroyable d'options disponibles. Mmh. C'est le symbole aussi de notre société individualiste, un peu narcissique, et ça se retrouve justement dans la manière de customiser sa voiture.
Alors quand vous avez 80% des ménages qui ont une voiture, pour se différencier, eh bien, on essaye d'avoir des petites différenciations, plus ou moins subtiles. Auparavant, c'était des différenciations quantitatives. Plus ma voiture était grosse, mieux c'était. Aujourd'hui, on va jouer sur le châssis, sur sa surélévation, comme dans les SUV, par exemple.
Bonjour Annie, bienvenue dans l'émission.
Oui. Bonjour.
Alors que vous inspire notre sujet du jour consacré à la voiture?
Alors ça m'intéresse énormément. Parce que moi, la voiture, pour moi, ça n'a jamais eu beaucoup d'importance dans la mesure où, depuis 40 ans, je circule à bicyclette. Mmh. Alors quand je dis je circule à bicyclette, ça veut dire que je fais tout à bicyclette. Quand mon fils était petit, je l'amenais à la crèche à bicyclette, à l'école à bicyclette après, et puis on allait se balader au jardin d'acclimatation à bicyclette. Bon, c'est aussi mon moyen de déplacement pour aller travailler. J'habitais à Suresnes quand j'étais dans la région parisienne. Je travaillais aux Invalides, ce qui fait 10 km aller, 10 km retour. Tout ça avec un grand bonheur parce que j'échappais à la foule, j'échappais à la frénésie de la vie parisienne. Et je fais également mes démarches à bicyclette quand je vais chez le Roi Merlin, puisque maintenant j'habite à La Rochelle. Le Roi Merlin est à 3 km, Casto est à 7 km. J'ai des matériaux à acheter, je prends mon vélo, j'arrime tout sur le vélo et je reviens avec mes matériaux à la maison. Donc, pour moi, on peut vraiment se passer de la voiture et...
le vélo contribue énormément au bonheur parce que d'abord on fait de l'exercice physique, ce qui est très bon pour la santé, c'est également très bon pour le mental. C'est un moyen de déplacement parfaitement écologique, très doux.
Annie, on l'a compris. Annie, on l'a compris. On vous convertira pas ce matin à la voiture. Johan de Molly, bon, c'est une belle vie hein, que vit Annie à La Rochelle avec sa bicyclette, mais c'est pas donné à tout le monde.
Alors, ce qui est assez clair, c'est qu'on a affaire à un usage assez exceptionnel hein, du vélo, parce que d'habitude, les trajets sont beaucoup plus courts hein, lorsqu'on prend, le vélo. Et il est vrai que la voiture, alors pour beaucoup de pères et de mères, c'est aussi le moyen de transporter facilement et court ses enfants. Pour le vélo, c'est pas toujours évident. Bravo, Annie.
Merci beaucoup, Annie, de nous avoir appelé. Alors, j'aimerais revenir à la voiture comme marqueur social. Est-ce que le choix d'une couleur de voiture, c'est si anodin que ça? C'est parfois, on a l'impression, aussi important que le choix d'un prénom.
Alors effectivement, votre voiture, elle est obligée d'avoir une couleur et de la même façon que vous êtes obligé d'avoir un prénom. Alors le prénom, c'est gratuit et c'est pour ça que ça permet de voir un peu des différenciations sociales qui sont pas basées sur des prix ou des revenus. La couleur, c'est pas tout à fait vrai parce que parfois il y a des couleurs qui coûtent plus cher que d'autres. Mais ce qui est très clair, on s'est amusé à faire ça dans le petit livre. Et
il y a des oppositions assez nettes hein, entre les véhicules les plus récents de couleur neutre, noir, gris, brun, choisis par les plus riches, hein, pour le dire vite, et les couleurs plus vives, comme le rouge, le vert, le bleu, qui sont plus fréquentes dans la moyenne gamme ou d'occasion, et que l'on retrouve dans les classes populaires ou la petite classe moyenne.
C'est ça, exactement. Oui, la stratification sociale des couleurs, elle rappelle la stratification sociale des modèles, et en particulier le fait que les voitures des ouvriers, elles ont en moyenne 12 ans d'âge, contre 7 pour celles des cadres. Donc ça rappelle aussi ce phénomène.
Sur la couleur, attention, une voiture de sport ultra rapide est souvent rouge. il est temps de vous retrouver, tiens, Julien Bisson. Dans le 1, vous proposez une vision singulière de la société. Cette semaine, vous vous intéressez à la question du référendum.
Oui, mais rassurez-vous, je vais vous épargner la question pour ou contre la voiture, ou d'ailleurs pour ou contre les 80 km/h. Je n'ai envie de me fâcher avec personne. Et je vais même commencer un peu en mode diesel, j'en compterai la seconde plus tard.
Comme d'habitude.
En rappelant l'origine de ces débats référendaires qui occupent aujourd'hui les débats politiques. Débats référendaires qui ont débuté dès le mois de décembre et les premières manifestations des Gilets jaunes. C'était pas simplement la voiture, justement, c'est très vite arrivé sur la question du référendum. C'était né d'un ras-le-bol fiscal, ce mouvement, et c'était un mouvement qui est alors devenu brusquement politique. Au hasard des cortèges, on a vu surgir un mystérieux acronyme, le RIC, pour référendum d'initiative citoyenne. Et trois mois plus tard, il y a quelques jours, le think tank progressiste Terra Nova vient de publier une étude au terme de laquelle il recommande l'adoption d'un référendum d'initiative citoyenne délibératif. Et l'idée a de quoi plaire puisque, a priori, 70% des sondés approuvent l'idée d'instaurer des référendums sur les grands dossiers. Dans le fond, cette revendication de démocratie directe et participative témoigne d'un besoin de moderniser un système présidentiel absolu. Ce qui est demandé, avec plus ou moins de gants, c'est que l'exécutif et le législatif concèdent une partie de leur contrôle sur la fabrication de la loi aux citoyens, à charge pour ces derniers de proposer des réformes, de rassembler le nombre de signatures nécessaires, de savoir organiser des assemblées d'information et de réflexion, et in fine d'obtenir la convocation d'un vote référendaire.
Alors Julien, pourquoi y a-t-il autant de réticences au référendum en France ?
Et parce que nous héritons d'une culture vieille de 2 siècles, où le référendum n'est jamais en réalité qu'un plébiscite. Depuis Bonaparte, et encore plus avec De Gaulle, nous avons pris l'habitude de ne pas vraiment répondre à la question qui nous est posée, et d'afficher avant tout notre opposition ou notre soutien aux dirigeants en place. Et nous gagnerions à nous inspirer de certaines expériences de pays voisins. Dans ce numéro du 1, nous évoquons notamment la situation en Allemagne, aux États-Unis ou en Suisse, où ces référendums venus d'en bas et non d'en haut amorcent de vrais processus démocratiques, souvent longs et passionnants, et qui politisent les débats dans le bon sens du terme. Cela éviterait des décisions mal informées et parfois prises sous le coup de l'émotion, comme pour le Brexit de nos voisins britanniques. La dernière crainte, c'est la peur des élus eux-mêmes de se voir dépossédés de leur monopole sur l'intérêt général. On pourrait leur rétorquer que pour organiser un RIC, on aura plus que jamais besoin des partis, des mouvements, des organisations politiques. Et puis, si le gouvernement n'a pas confiance dans le peuple, peut-être doit-il relire ce poème célèbre et plein d'ironie de Bertolt Brecht, appelé « La solution ». Après l'insurrection du 17 juin, le secrétaire de l'Union des écrivains fit distribuer des tracts dans la Staline Allée. Le peuple, y lisait-on, a par sa faute perdu la confiance du gouvernement, et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner. Ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre.
Merci beaucoup Julien Bisson. Référendum, pour ou contre, c'est le nouveau numéro du 1 à retrouver cette semaine en kiosque et en librairie. Allez, on continue à se demander ce que raconte la voiture sur nos sociétés. Question réaction au 01 45 24 7000.
Took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this.
Vampire Weekend, Harmony Hall, ça vous plaît ça, Julien Bisson hein?
Oui, j'aime beaucoup ce groupe Vampire Weekend.
Merci, on est content de le savoir.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h46 et on s'intéresse ce matin à la voiture qui raconte notre société avec le sociologue Yann Demoly et le psychologue Jean-Pascal Assailly.
Ça craint le bateau en bas? Tu risques de te prendre une prune. Ils enlèvent pas?
Ah non, je crois pas. Marc, s'ils veulent la bouger, il va leur falloir un tank.
T'as pas de malus, toi, avec ton scénic?
Non.
Ça tombe bien. J'ai rayé une petite voiture rouge en bas, j'ai laissé ton numéro.
T'as laissé mon numéro?
Ouais. Tu t'en fous?
Non, non, non. T'as très bien fait. Je me ferais un plaisir de te dénoncer.
Je te fais confiance.
Je me moque, mais au fond, ça doit être bien pratique. Un 4x4 dans le 5e arrondissement. Et à la montagne Sainte-Geneviève. Et puis, la Bièvre doit être souvent en crue.
C'est pas un 4x4 à proprement parler, c'est un SUV. Sport Utility Vehicle. Un crossover, si tu préfères.
Ah non, je préfère rien du tout, il y a beaucoup trop de mots anglais pour que ça soit intéressant.
Extrait du film Le Prénom. Yoann Demoly, que racontent les 4x4, les SUV, les crossovers sur notre société? Au Québec, on ne parle pas de SUV, mais de véhicules utilitaires sport. Ce sont des voitures forteresses où l'on se sent en sécurité supérieure?
Oui, alors paradoxalement, le SUV, il incarne aussi cette forme de retour à la nature. Quand on regarde qui possède des SUV, c'est moins comme là, on le disait dans le prénom, des gens qui habitent Paris 5, mais plutôt des ménages qui habitent des pavillons en zone rurale ou en zone périphérique, et pas ces ménages urbains. Ouais.
Jean-Pascal Assailly, pour beaucoup, l'automobile reste un cocon protecteur, et ça l'est encore plus dans les SUV ou les crossovers.
Hein. Oui, c'était certainement une des motivations des acheteurs de ce genre de véhicule. Voilà, bon, dont on voit bien l'absurdité en ville, de toute façon. Hein, bon. Après, je pense qu'effectivement, vu les, la question de la masse des véhicules et de leur, le degré de leur pollution, fera que je pense que ce genre de véhicule deviendra quand même plus impopulaire dans l'avenir qu'ils n'ont été dans le passé.
Alors, la voiture coûte beaucoup à la société, car c'est un facteur de violence sur les routes. Alors, j'aime beaucoup cette phrase de Régis Debray, hein, quand je suis à mon volant, mon congénère sur la chaussée n'est pas vraiment aimable, c'est un rival, sinon un ennemi. Jean-Pascal Assailly, voir l'autre comme un rival, comme un ennemi, c'est l'une des sources de la violence routière, avec bien sûr l'alcool, les drogues au volant, etc. Mais...
Oui, c'est le cœur du problème. C'est, enfin, on s'en rend bien compte, si vous voulez, quand on interroge les gens sur savoir pourquoi ils respectent pas les règles et pourquoi ils prennent des risques. La sécurité routière, c'est à la fois des dossiers techniques comme la vitesse, l'alcool, le cannabis, le téléphone, voilà, avec des choses qui montent comme la distraction. Mais au-delà, si vous voulez, de ces facteurs de risque, sur lequel on a des connaissances à transmettre à la population, parce que bien souvent les gens ne savent pas, hein, c'est pas qu'ils veulent à tout prix se comporter dangereusement, c'est qu'ils ne savent même pas quel est le danger. Certes, il y a ce travail-là, notamment qu'on fait qu'on fait à l'éducation nationale déjà, hein, dès l'école primaire, et qu'on essaye de faire aussi dans les stages de récupération de points. Mais de toute façon, effectivement, moi j'ai toujours pensé que le cœur du problème de l'insécurité routière et de la violence routière, c'est basiquement un problème de citoyenneté, de respect de l'autre, de faire attention à l'autre, parce que dès que ça s'améliore un peu, tous les dossiers techniques, alcool, vitesse, cannabis, ils s'améliorent mécaniquement. C'est effectivement la question de savoir comment est-ce qu'on partage un endroit commun, et surtout comprendre ce côté systémique, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'effectivement, certains d'entre nous seraient probablement capables de rouler à 150 à l'heure sans aucun problème, mais malheureusement, sur la route, il y a tout le monde. Il y a les enfants, les vieux, les gens qui sont lents, les gens qui ont des problèmes de santé, les gens qui ont des problèmes d'alcool. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire vivre tous ces gens-là ensemble, et donc de mettre de moins possible de pression dans la marmite. Voilà, c'est ça le fondement de la sécurité routière. Mais donc, c'est un travail qu'il faut commencer dès la crèche. Voilà, c'est le rapport à l'autre.
Antoine Lee, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter de l'émission. Vous vous êtes intéressé justement au comportement des automobilistes qui ont perdu leur point de permis.
Voilà, des conducteurs qui ont commis de multiples infractions au code de la route. Parmi eux, il y avait des médecins, des avocats, des VTC, des livreurs et même un lycéen. 16 hommes et seulement 3 femmes qui ont payé 139 euros pour 2 jours de stage et surtout pour récupérer 4 points d'un coup. Je les ai rencontrés à l'agence CER Bobillot à Paris.
Je laisse passer les piétons ? Oui, réponse A. Non, réponse B.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Parce que je dois récupérer 4 points. C'est important, j'ai actuellement 5 points, mais il m'est arrivé de perdre 4 points, notamment sur un feu rouge.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être un homme différent lorsque vous êtes dans votre voiture, au volant ?
Je dois avouer que oui. Parce que l'agressivité peut monter très vite. Mais il est vrai qu'une fois, j'avais discuté avec une dame. On avait eu une discussion qui était un petit peu violente sur les rapports entre les hommes et les femmes, etc. Enfin, et puis, donc, elle m'a lâché une injure à la fin, en partant.
C'était quoi ?
Et moi, alors, c'était petite bite. Voilà. Et donc là, bah, effectivement, je suis resté sans voix. Et puis, dans ces cas-là, il ne faut pas partir dans l'escalade de la violence parce que c'est pas quelque chose d'acceptable. Surtout que cette tension, elle redescend très vite après. Et on peut être amené à regretter ses propos.
Le véhicule noir roule à 70 km/h. Je peux le dépasser ?
Robert, vous êtes instructeur depuis 25 ans. Comment vous expliquez que ces gens commettent des infractions alors qu'ils connaissent le code de la route ?
Tant qu'ils ne sont pas pris, pour eux, ce n'est pas une infraction. Ils n'ont pas l'impression que les 7 petits kilomètres à l'heure supplémentaires peuvent être un gros problème s'ils ont besoin de s'arrêter sur un obstacle, etc. Donc, si vous voulez, la réalité de l'infraction pour eux, c'est quand ils se font arrêter. Un être humain, à l'origine, il est fait pour marcher à 3 km 600. Dès qu'il dépasse cette vitesse-là, il y a des choses qui ne vont plus dans son cerveau, et il ne verra plus, il n'aura plus le temps de réaction suffisant, et donc, il n'a jamais été fait pour conduire, finalement.
Vous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Je suis là parce que j'ai perdu 7 points à mon permis de conduire. Je suis passée à un feu orange et je me suis arrêtée quasiment au milieu du passage clouté. Et puis, c'est vrai que j'ai prêté ma voiture aussi et qu'il y a des points qui sont partis pour mes enfants.
Est-ce que vous changez de comportement, d'attitude, de caractère
lorsque vous êtes au volant de votre voiture?
Non, ça modifie absolument pas, moi, ma façon d'être. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui sont agressifs, des autres conducteurs. Il y a des hommes qui descendent de leur voiture et qui frappent très fort au carreau en criant. Et comme moi, j'ai la portière verrouillée, ça induit un sentiment quand même d'insécurité. Mais évidemment, je n'ouvre jamais. Je trouve ça vraiment très dommage, quoi, finalement.
La distance avec le véhicule qui me précède est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Robert, en tant qu'instructeur, est-ce que vous trouvez qu'il y a un comportement irrationnel chez certains automobilistes?
Ça reste un jouet pour l'être humain, en tout cas pour les hommes. Ça reste un jouet. La femme, c'est plus un objet de déplacement. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les femmes, on les retrouve très peu dans les stages, hein.
Et comment ça s'explique, ça?
Aujourd'hui, l'homme ne chasse plus pour pouvoir manger, mais il a gardé quand même cette ardeur avec sa voiture, quoi. Ça reste son arme, sa manière de se faire valoir. Je pense que l'homme, au volant de sa voiture, il est quelque chose. Sorti de sa voiture, certains ne sont plus rien du tout, quoi.
Reportage signé Antoine Lee.
Et sachez quand même, Ali, que 75% des conducteurs ont tous leurs points.
Johan de Molly, la conduite automobile doit donc nous apprendre à tenir compte d'autrui, mais des tas de biais empêchent de céder le passage, nous poussent à dépasser dangereusement des biais liés au sexe de l'autre automobiliste, de sa prétendue position sociale.
Mmh. Alors, je serais plus nuancé parce qu'en voyant finalement historiquement, au début des années 70, on avait plus de 15 000 morts sur la route, aujourd'hui on en a 4 fois moins, donc il y a une forme de civilisation des mœurs, hein, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, même si chaque mort est extrêmement tragique, hein, cela va sans dire. Toutefois, je prenais le métro ce matin, j'avais pas l'impression que tout le monde était complètement agréable et dans une humeur non hostile. Hein. À chaque fois, il y a des interactions difficiles dans n'importe quel lieu de promiscuité.
Jean-Pascal Assailly, que dit le comportement routier sur une société?
Bah, effectivement, c'est la question du rapport à la violence et à autrui est assez centrale dans cette affaire-là. Tu parlais de la pacification des mœurs. Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est Norbert Elias, un sociologue, qui a expliqué comment la société française est sortie de la barbarie pour entrer dans la civilisation. Et bon. Et dans cette pacification des mœurs, il nous a expliqué que ça suivait une pente descendante. C'est-à-dire que c'est d'abord les classes très favorisées qui changent de comportement en adoptant un comportement plus prudent ou plus respectueux. Puis ensuite, ça descend jusqu'à la bourgeoisie, puis jusqu'à la classe ouvrière. Etc. Donc ça, c'était un premier obstacle parce que bien souvent, chez nous, les classes favorisées ne montraient pas l'exemple, justement, avec les voitures très, très puissantes, etc. Ils étaient très, très, très réfractaires au contrôle de la vitesse. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a commencé un petit peu à améliorer, effectivement. Et puis ensuite, en dehors de ce rapport, effectivement, à la vitesse, pour moi... Je pense qu'un des grands chantiers qui nous reste, c'est la question de la masculinité, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, c'est pas une fatalité biologique, hein, parce qu'on a un pénis entre les jambes. C'est vraiment la façon dont on élève les petits garçons et les petites filles sur la question du rapport à la règle et du rapport au risque. Et c'est l'objectif tout à fait naturel d'un petit garçon n'est pas de devenir une femme. Bon, c'est de devenir un homme. Le problème qu'on a à partir de 12-13 ans, c'est que si devenir un homme, c'est boire beaucoup d'alcool, rouler très vite et prétendre faire tout ça en sécurité, c'est surtout ça le plus important, eh bien, on est mal. Donc ça va être tout un travail, si vous voulez, de changer l'éducation, hein, de changer ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe, de changer l'éducation qu'on apporte, parce qu'on en voit les dégâts dès que les garçons commencent à atteindre 12-13 ans.
Alors selon l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, en 2018, 3259 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine, c'est 189 décès de moins qu'en 2017, et cette baisse, elle ne profite pas à tout le monde, Jean-Pascal Assailly, notamment du point de vue de la répartition entre les hommes et les femmes.
Non, bien sûr. Bah, si vous voulez, ce que j'appelle le caractère systémique, on a quand même...
Ça touche surtout les jeunes hommes.
Oui, bien sûr. Bon, mais ceci dit, tout le monde progresse. Voilà. Non, il faut quand même retenir si vous voulez. Ben, bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres. Les hommes par rapport aux femmes, les gens en situation d'exclusion sociale par rapport à ceux qui sont très bien insérés. Donc, c'est sûr qu'il y a des différences statistiques. Mais globalement, si vous voulez, les progrès, on les a observés pour toutes les groupes de la société. C'est-à-dire que, dans le temps, les jeunes de ma génération, dans les années 70, faisaient 4000 tués par an, ils en font plus que 800. Donc, un nombre égal de bonhomme et de voiture, c'est bien qu'ils se comportent différemment des jeunes de ma génération. Donc, ça veut dire, on voit bien qu'ils sont pas un obstacle, hein, à la prévention, ni à la répression d'ailleurs. Simplement, effectivement, on est tous dans le même bateau. on progresse ensemble ou on stagne ensemble en matière de sécurité routière.
Merci beaucoup, Yoann de Molly, d'être venu. Je recommande votre Sociologie de l'automobile. C'est disponible en format poche à la découverte. Merci, Jean-Pascal Assailly. On peut lire avec profit votre Homo Automobilis. Demain, on s'intéresse aux idées reçues sur l'hyperactivité des enfants et des adultes. Quels sont les symptômes? Comment s'effectue le diagnostic? Est-ce un trouble héréditaire? Comment soigner l'hyperactivité, autrement appelée TDAH? Nous recevrons les pédopsychiatres Eric Aquaviva et Gabriel Val. Question témoignage au 01 45 24 7000 et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.